sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par des gens tous excellents. Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André, à la prise de son, l'excellente Anthony Thomasson, l'excellent Thomas Boréalis, et autour de moi, un aéropage d'excellence, Mathilde Serret, Joseph Gosne et Christophe Comte. Je n'oublie pas Boris Pino à mes côtés pour relayer les avis que vous pourriez avoir ou questions sur notre sommaire de ce soir, composé comme suit. Nous allons parler de Child Queen de Kajabone, de Bashung Live 85-2009, c'est un coffret de 10 CD, et puis Both Directions at Once, The Lost Album, l'album perdu, oui, de John Coltrane. Il y aura bien sûr d'excellents cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'excellente exposition Couple Moderne jusqu'au 20 août au Centre Pompidou-Metz. Et nous ouvrons cette émission avec un nom qui est sur toutes les lèvres des amateurs de musique, celui de Kajabone, la Californienne qui avait sorti un mini-album il y a 2 ans, qui avait fait forte impression. Elle a pris son temps à multiplier les lieux d'enregistrement dans toute l'Europe pour son premier grand album, Child Queen, en guise d'amuse-bouche. J'ai même du mal à le dire, d'amuse-bouche. Nous écoutons justement le morceau qui s'intitule lui aussi Child Queen.
You're so deep and doing what you do.
Eh oui, on est en train de parler et on est voilà, et c'est comme ça parce que on parle de musique, on parle de Joy Division, de l'excellent livre écrit par Christophe Comte qui accompagne la sortie d'un DVD de Control, le film d'Anthony Corbijn.
Donc c'est un DVD avec un
oui, enfin moi c'est le livre qui m'importe mais le film aussi et Joy Division tout autant et en fait on écoutait Katja Bonnet. Retour sur Terre et aussi avec Christophe Comte parce que je vous ai lu dans les Arocs.
Oui.
Tant que ça dure, jusqu'à la fin de la semaine, pour un coup de cœur.
Un énorme coup de cœur, d'autant que moi j'avais écouté le premier mini-album de Katja Bonnet il y a quelques années, mais je l'avais adoré sur le moment et je ne l'avais pas réécouté depuis. Et quand j'ai reçu le nouvel album, d'un coup j'ai réécouté ce premier mini-album, qui était un 8 titres, qui était déjà assez prodigieux quand même, quelqu'un qui arrivait de nulle part, qui débarquait de Californie, et puis à une époque où commençait à émerger un certain nombre de divas de la néo-soul, etc., on pouvait simplement en voyant sa plastique imaginer qu'elle serait voilà dans cette catégorie-là. Et en fait, en découvrant sa musique qui se prolonge ici sur un plus long format, sur cet album, on se rend compte qu'elle est complètement décalée par rapport à justement tout ce qu'on peut imaginer comme chanteuse soul actuelle. C'est même pas vraiment une chanteuse soul, c'est une sorte d'hybride, de je ne sais pas, une musique un peu cosmique, à la fois folk, avec des racines quand même soul, mais l'équivalent, alors on a dit des noms à son propos qui sont, voilà, c'est Dionne Warwick, ce genre de chanteuse. Voilà, c'est vraiment des repères très flous, mais elle a une personnalité qui est assez exceptionnelle. C'est quelqu'un qui a en elle le syndrome de Stevie Wonder, c'est-à-dire qu'elle écrit, elle compose, elle joue de tous les instruments, ce qui est quand même assez prodigieux. Alors moi je l'ai interviewée, elle dit mais je joue mal de tout, mais je prends mon temps. Mais bon, enfin en même temps il faut le faire. Hein. Moi je joue mal de tout, et je n'arriverai pas à faire ce qu'elle fait. Hein. Et du coup ça pouvait être un peu voilà le deuxième album, ou en tout cas le premier véritable album pouvait décevoir par rapport à ce premier album qui était vraiment prodigieux. Au contraire, ça, c'est vraiment la suite, en peut-être un petit peu plus personnel, parce que je crois qu'il y a une histoire. C'est quelqu'un qui a l'air de beaucoup travailler du cerveau. Hein. Elle est assez, à la fois très exubérante, rigolote, mais en même temps, au bout d'une vingtaine de minutes d'interview, elle a commencé à changer complètement de discours et à me dire « je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas pourquoi je fais écouter ma musique. En fait, je fais de la musique pour moi et le fait même d'en parler, je me rends compte que en fait, j'arrive pas. » Elle est assez bizarre, et c'est comme ça que ce disque s'est fait, comme vous l'avez dit, dans plusieurs villes européennes. Alors ça, c'est ce qui est marqué dans l'argument de presse, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Elle a commencé à Los Angeles, et puis après, elle avait une tournée, et donc, comme tous les musiciens, elle a amené son ordinateur, sans doute, à rajouter des bouts dans des studios qu'elle trouvait petit à petit sur son chemin, mais on peut pas dire que c'est un album qui a été imprégné par les lieux qu'elle a...
Non, pas du tout, non.
Une capsule quand même assez éloignée de toute forme d'influence extérieure. Il y a quelque chose dans son discours de très personnel, cette histoire comme ça, de cycle de la vie, enfin j'ai pas très bien compris hein, tout ce qu'elle raconte, mais en tout cas il y a une forme de repli un peu fœtal sur une histoire d'enfant reine, enfin voilà, qu'on voit un peu à travers les textes de l'album. Ça reste pas la partie la plus la plus intéressante, c'est surtout je pense à la fois son interprétation, la manière qu'elle a d'écrire, la qualité évidemment des compositions, et surtout je trouve la globalité, l'enveloppe, la capacité de ce disque à envoûter, on dit ça de beaucoup de musique, mais là on a vraiment l'impression d'être encerclé, d'être pris dans quelque chose de très doux en même temps. C'est pas du tout violent, mais vraiment on ressort pas de ce disque, enfin on n'écoute pas ce disque en buvant l'apéro ou quoi. Il y a quelque chose d'assez mystique quand on l'écoute. Alors elle se réfère à des gens comme Prince, etc., parce que voilà, c'est un peu ses mentors, c'est des gens effectivement qui sont des multi-instrumentistes qu'elle estime beaucoup plus douée qu'elle, mais il y a ça quand même chez elle. Elle cumule à la fois la qualité d'une interprète extrêmement puissante, même si sa voix est très douce, et quelque chose de ces multi-instrumentistes qui fascinent toujours, quoi. Ces gens qui sont capables de créer entièrement, intégralement, une œuvre musicale qui a l'air d'être faite par 25 personnes.
Alors, Mathilde Serrel, très fan de Cajabonnet.
Oui, depuis The Visitor, en effet, ce premier mini-album, je l'avais vu également pour son premier concert en France à la Boule Noire, et elle était cachée derrière ses longs cheveux bouclés. Elle nous a à peine laissé entrevoir son visage. Elle est d'une fragilité sur scène extrême, et c'était tellement envoûtant, encore plus en live, de la voir dans cette fragilité et cette puissance, ces matinées d'une infinité de choses. Et c'est là où c'est très intelligent, je trouve, ce qu'elle fabrique. C'est à la fois totalement unique à elle. Elle écrit, elle compose, elle arrange, elle mixe, en plus d'être multi-instrumentiste. Elle s'est échappée de sa formation classique alto-violon, un père chanteur d'opéra. Et elle a combiné, je trouve, à la fois des grandes envolées funk des années 70, comme Chuck Mangione, Land of Make Believe. C'est vraiment ces espèces de rituels enchanteurs pour aller vers un monde meilleur, pour aller se transcender, etc. On retrouve aussi, je trouve, Minnie Riperton, Les Fleurs, cette espèce d'orchestration bourgeonnante, et puis cette voix absolument unique. D'ailleurs, Minnie Riperton, c'était une des chanteuses préférées de Stevie Wonder. Il y a évidemment le Songs in the Key of Life aussi dans cet album de Cajabonnet. C'est d'une infinité de références, tellement, prises à l'intérieur et retransposées dans son univers et dans un nouveau paysage unique, que c'est impressionnant, vraiment, d'intelligence. Et il y a aussi tout un chemin, effectivement, introspectif. On a beaucoup parlé de jeunes chanteuses cette année à la dispute, de leur façon de gérer leur force, leur virilité, éventuellement. Là, effectivement, c'est pas du tout appuyé, le propos de Cajabonnet. C'est vraiment une sorte de méditation. Elle répète comme ça des mantras, par exemple, elle dit Mother Maybe, qui a l'air d'être effectivement une chanson sur être enceinte ou pas, ou le devenir ou pas. C'est cette espèce d'angoisse qui monte, qui se transforme d'un truc très funky 70s, puis dans une tristesse, puis dans une voix entêtée. Tout ça dans le même titre, et ça reflète finalement le paysage mental, on l'a dit, très, très délicat, très fin, et un peu torturé aussi, de Cajabonnet. Pour moi, c'est effectivement non seulement la continuité de Visitor, mais vraiment l'absolue consécration, que c'est une des plus grandes artistes, je trouve, qu'on ait eu ces derniers temps. Vraiment, Cajabonnet, et à voir absolument en concert.
Joseph Gosse, à présent.
Alors, moi, ça a aussi été une très jolie surprise. Comme le disait Christophe, il faut très certainement dépasser l'imagerie et la plastique de départ, et notamment la pochette, que je trouve assez hideuse.
J'allais le dire. Bon.
Pour effectivement se plonger dans ce disque qui est... que je trouve s'écoute comme une vraie petite odyssée, c'est-à-dire que c'est d'un seul tenant pour moi, et il y a quelque chose d'assez psychédélique dans toute cette histoire, et tous ces arrangements et la façon dont la musique se déploie au-delà même de l'interprète. Pour moi c'est un disque qui se situe dans une continuité que je fais remonter. Mathilde parlait tout à l'heure de Minnie Riperton, Les Fleurs, mais je préciserai que c'est même je ferai remonter ça aux productions de Charles Stepney, qui avait produit Les Fleurs, et tout ce qu'il a fait pour le label Chess, c'est-à-dire ce moment où il y a une rencontre entre la soul et le psychédélisme et le rock psychédélique, plutôt, qui étaient un peu les deux comment dire, deux courants de ce moment-là, de la fin des années 60. On peut continuer avec, par exemple, effectivement, Stevie Wonder, mais aller aussi jusqu'au Prince du milieu des années 80. On pense beaucoup à Around the World in a Day, c'est-à-dire aussi ce moment où il est lui aussi dans le psychédélisme. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, je la situerais aussi là encore plus dans quelque chose qui est très contemporain et qui relève un peu de ce néo-psychédélisme qu'on voit apparaître un peu à gauche et à droite, notamment en Angleterre, avec des DJ qui reprennent pas mal de choses, qui recréent des matières, des textures qui sont psychédéliques et qui sont assez vaporeuses et qui prennent le temps. Et je trouve qu'il y a ça, que j'aime.
Moodoid en France aussi.
Moodoid peut-être, oui. Moi, je pensais plutôt à des Anglais, Siho, etc. Enfin, des gens assez confidentiels, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui me plaît bien. Et j'aime beaucoup, par ailleurs, au-delà de l'interprétation, une fois encore, et des arrangements, j'aime beaucoup le travail sur les rythmes. J'étais assez marqué par ça, l'espèce de boîte à rythme ou de rythmique comme ça, qui sont assez, assez délicates et toujours bien placées, et qui sont, à mon sens, plutôt à l'encontre des choses très qui deviennent quasi vulgaires qu'on entend dans le R&B ces derniers temps. Et du coup, je trouvais ce disque très 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 beau et assez salutaire en fait.
Voilà. Alors,
et je le recommanderais à écouter. Voilà. Bah,
vous êtes là pour ça, ça tombe bien.
Vous pouvez même l'offrir, Joseph.
On n'offre plus les disques, mais
c'est vrai. Les gens vous regardent au travers.
Au-delà de la pochette, effectivement, qui est pour moi pas la chose la plus heureuse de l'album, on m'a tellement parlé de Cajabonnette avant de l'écouter que, alors, est-ce normal, je me penche vers vous, docteur et doctoresse, j'ai eu quand même du mal à entrer dans ce disque. Les premières écoutes m'ont pas vraiment convaincu. Était-ce moi qui étais dans une mauvaise passe, c'est possible aussi. Mais par contre, c'est vrai que plus je l'écoute et plus le charme opère. Est-ce que c'est... Joseph, vous allez
absolument
dire que c'est pas tout à fait anormal. Je ne dois pas m'inquiéter sur ma santé, la santé de mes oreilles.
Ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, ça,
il n'y a pas un effet d'immédiateté.
J'ai pas forcément adhéré immédiatement parce que je trouve, par exemple, je préfère les morceaux du début, pas ceux de la fin, etc. Mais à force de l'écouter, on rentre vraiment. Et comme disait Christophe, c'est une enveloppe. C'est-à-dire une fois qu'on est dans l'enveloppe, en fait, ça se passe plutôt très bien et c'est d'une fraîcheur assez étonnante. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment.
Je trouve qu'au niveau de l'intention, il y a aussi dans son héritage quelque chose de une veuve dont on va parler tout à l'heure de son mari, mais Alice Coltrane, des gens comme Dorothy Ashby qui ont fait du jazz, qui ont fait un pas de côté, notamment dans les années 70, et qui ont créé une musique assez céleste comme ça. Et on retrouve dans la manière de traiter les instruments, dans l'enveloppe sonore, quelque chose de ces disques-là qui sont encore aujourd'hui assez envoûtants, hypnotiques.
Et très à part.
Il y a beaucoup de choses de l'époque qui ont beaucoup vieilli, qui ont des stigmates très forts. Alors qu'on écoute les albums de Dorothy Ashby, notamment, je ne sais plus lequel, mais c'est absolument merveilleux. On est dans une dimension qui est autre, qui n'appartient pas à l'espace-temps dans lequel on vit. On est vraiment ailleurs. Et je trouve que Cajabonnette a vraiment ça, cet héritage-là de quelqu'un qui ne fait pas de la musique pour son temps, mais qui fait de la musique dans l'absolu. Et je pense qu'il y a vraiment ça. On peut pas dire, alors oui, il y a des références, on peut dire, c'est plus années 70, on va dire, que
grunge, 2010. C'est sûr, oui.
Mais même s'il y a un petit peu d'électro,
il y a un petit peu, mais c'est
bon.
Et elle avait choisi au départ, et c'est marrant parce qu'elles ont sorti leur nouvel album en même temps, elle avait choisi un peu la même idée un peu absurde de départ que Janelle Monae, à savoir qu'elle avait lancé un truc comme quoi elle était née à l'arrière d'une voiture en 1700. Et elle dit, en fait, c'est parce que je savais pas quoi dire et je voulais pas que mon disque soit inscrit dans une époque qui était celle qui était
pour réduire à sa biographie
il y a 4-5 ans et ça voulait pas dire grand chose, donc finalement elle a inventé un personnage. Alors après, c'est complètement pipeau, évidemment, bon, ça n'apporte rien au récit.
Elle n'est pas née en 1732,
non, je crois pas, ou alors elle est bien conservée, mais ça rajoute quelque chose finalement d'intemporel, puisqu'on ne sait plus trop exactement d'où elle se situe. Et puis elle est assez solitaire, finalement. C'est pas quelqu'un qui appartient comme ça à une scène. Enfin, elle n'a pas vraiment de connexion très très profonde. Et si je compare avec Janelle Monae, c'est que je trouve que Janelle Monae, partant de ce postulat comme ça, elle s'est un peu en cours de route, elle s'est formatée. Son dernier album est quand même très formaté R&B, avec des belles chansons ou des choses assez enthousiastes. Mais il n'y a pas ce côté...
Il y a une singularité, c'est quand même ça qui fait la différence par rapport aussi aux albums dont vous parliez, Christophe Comte, c'est qu'on a quelqu'un qui, on l'a dit et redit, mais c'est vrai, qui fait tout elle-même, et que donc cette singularité, on l'entend, et qu'en l'occurrence, comme elle a un univers riche, il est singulièrement marqué.
Et surtout, moi ce qui me frappe, c'est que ça ne cherche jamais le tube. Quand on compare avec... sans doute peut-être d'autres Californiens, quand on voit la façon dont les morceaux sont écrits, composés maintenant, c'est-à-dire avec une rythmique, un motif et une voix très très en avant qui en gros sont là pour passer sur YouTube, là on est vraiment dans l'exact contraire de ça, à la fois sur la longueur et aussi dans la délicatesse. Un morceau, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Delphine, quand on écoute ça, dit bah oui, c'est un morceau qui ne peut s'écouter quasiment que au casque, de manière très très proche, parce qu'elle est quasiment en train de le murmurer.
Delphine, oui, c'est un titre avec une voix d'ange qui s'accroche et qui se décroche comme ça. C'est aussi un travail vocal exceptionnel que fait Cajabonnette. Donc elle n'est pas d'une époque particulière, elle n'est pas d'un style particulier, elle n'est pas de continent particulier, parce que même si on a beaucoup parlé des États-Unis, elle a repris aussi des grands compositeurs brésiliens, elle est extrêmement nourrie de musique brésilienne. En fait, elle est très fine dans sa mélomanie, et en même temps, je trouve que par rapport à ce côté « je ne fais pas de tube », en tout cas je ne cherche pas à en faire, elle a aussi cette puissance, c'est qu'elle fait des classiques instantanés. C'était le cas dans le premier mini-album The Visitor. Et là, les deux, trois premiers titres de ce disque, Procession, Child Queen et Another Time Lover, c'est vraiment déjà des morceaux pérennes. Et peut-être que vous aviez du mal.
Seul l'avenir le dira.
Vous avez du mal peut-être, Arnaud, au départ, mais je vous assure que si vous les réécoutez plusieurs fois, vous allez vous surprendre à avoir envie de les chanter.
C'est ce vraiment des mélodies. C'est le morceau Wings qui est plus loin.
C'est fait déjà, Mathilde, ce que j'expliquais, c'est que je suis passé à ce stade-là.
Oui,
en
le problème, vous avez vu, quand on se met à chanter Kadia Bonnet, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas Kadia Bonnet. Et ouais. C'est une expérience
laissez-moi
douloureuse.
Croire que je
alors, est-ce
suis
que
là,
moi, j'ai une question pour l'un d'entre vous. Est-ce que, parce que j'ai pas eu le disque et j'ai pas eu les paroles, mais dans le premier titre, Procession, il y a un passage en français, j'ai pas compris ce qu'elle disait. Vous avez entendu ça ou pas ?
Pas du tout.
Ah bon.
Du tout.
Mais vous remarquerez, c'est comme une espèce de mantra qui revient plusieurs reprises. Et il y a ensuite un passage en français. J'arrive pas, j'aimerais bien avoir la pochette pour savoir si elle est.
Je sais pas ce qu'elle raconte. Aux auditrices et auditeurs, envoyez-nous les paroles françaises. Vous n'avez pas eu non plus de disque physique ni de paroles. Donc on fait un appel. Hein, vous mettez ça sur.
Je suis persuadé que c'est
dans le compte de la dispute. Oui.
Ah
oui.
Bon. Vous écoutez très bien, attentivement.
C'est
lancé sur Twitter. Par contre, vous disiez qu'il faut l'avoir en concert. Moi, j'ai pas vu de date prévue.
Non, pour l'instant, non.
Bon, il y avait
cette petite date à la Boulangerie, parce que elle est aussi, à mon avis, d'après l'expérience d'interview qu'a Christophe Comte, j'imagine que monter sur scène, c'est pas évident non plus.
Elle a l'air de faire beaucoup de concerts en même temps,
mais pas près de chez nous. En France,
peut-être qu'il faut que ça prenne un peu.
Pour l'instant, on a un disque, visiblement.
Ce serait bien de l'avoir ailleurs qu'à la Boulangerie, pour le coup, dans un vrai.
Oui, qui est à Paris. C'est assez étroit, c'est vrai.
Bah, au moins, ils ont le mérite de la programmer. Child Queen, Kadja Bonnet, c'est chez Fat Possum Records. À suivre dans la dispute, Alain Bachung et John Coltrane.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la musique avec 10 CD sinon rien, qu'on ait eu la chance de voir Alain Bachung en concert ou pas, ce coffret est un cadeau à se faire ou à faire, même si on n'offre plus de disques. Le chanteur disparu en 2009 avait le don de la scène, il apportait toujours une dimension supplémentaire à son corpus quand il le jouait en live. C'est un ensemble de chansons, évidemment, au fil des années, qui s'est enrichi et qui restait toujours vivante, mouvante, tournée après tournée. Impossible de faire un choix donc, quand on a 10 CD sous la main, mais il a bien fallu en faire un, c'est la règle du jeu dans la dispute. On va écouter Faites monter dans la tournée des grands espaces.
Dans ma cornée, j'ai versé ces gouttes de Ségur. Un peu d'espoir, ça a d'épaisseur. Et j'ai touillé. Devant ma boutique, monte un cantique. Abîme à l'amour, oh, il fait ébullition, réaction. Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les les ordures. Dans ma cornue, j'ai versé une pincée d'orgueil mal placée, un peu de gâchis en souvenir de ton corps. Dans ma cornue, j'ai
dans ma cornue, j'y suis tombé. Quelle autre solution que de se dissoudre? Fais compter l'arsenic, fais compter le mercure, fais compter la vampire au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jette-les aux ordures. Je décante le soir à la lune montante. Au matin, je reprends connaissance. Ébullition, réaction. Fais monter l'adrénaline, fais monter le mercure. Fais compter la vampire au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jette les ordures. Fais compter. Fais compter.
Bienvenue dans les grands espaces avec Alain Bachung et Mathilde Serrel. Vous n'y attendez pas celle-là.
Oui, je ne suis peut-être pas la plus bachungienne.
Eh bien justement, c'est comme ça que vous commencez.
Très bien.
Comment alors on fait avec un coffret, 10 disques, avec des remasterisations? C'était le cas pour cette tournée des grands espaces. Thomas Boll, réalisateur, a comparé les ondes sur ces machines. Il a bien vu que ce n'était pas la même histoire et qu'on gagne évidemment beaucoup en ampleur. Dans cette remasterisation, plus quelques petits inédits aussi.
Petits inédits, oui, tout à fait, dans le premier disque. Comment est-ce que, avec cet objet, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous écoutez l'ensemble et vous avez une sorte d'évolution de Bachung, une évolution de sa voix. Moi, j'ai suivi dans l'ordre, ce qui est assez agréable parce que, par exemple, pour tout ce qui est Vertige de l'amour, on va retrouver une infinité de versions et la petite rouquine. La petite écarlate là qui est à l'attaque une des premières phrases de la chanson, c'est assez génial de voir comment il s'en empare et le travail qu'il fait. Parfois il a pas du tout envie de les chanter. Il y a des La nuit je mens qui sont complètement à côté, d'autres qui sont grandioses. Donc c'est très étonnant ce rapport qu'il a avec peut-être un état d'amour ou pas avec ses chansons. Du coup on voit aussi les amis qui reviennent, c'est-à-dire il y a des chansons qui sont toujours là, que j'aime beaucoup. Par exemple Martine Boud revient assez souvent. Comme on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas été forcément des titres qui avaient été particulièrement plébiscités, mais ils sont dans le cœur de Bachung. Après la vraie approche, on va dire, c'est de pas se forcer non plus à être dans l'exhaustivité, parce que moi je trouve que les premiers lives sont un petit peu difficiles. Il y a une énergie rock, mais qui est un petit peu datée, on va dire. En revanche, les deux derniers live sont absolument splendides. Donc il y a
Dimanche
à l'Élysée et La tournée des grands espaces. Là vraiment, en plus dans le tout dernier live, un Dimanche à l'Élysée, c'est poignant parce qu'on entend davantage Bachung entre les titres. On l'entend nous commenter, ce qu'il a envie de faire partager, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de titres en anglais qui sont pas du tout sur les albums de Bachung. Alors, on va découvrir une reprise de Hey Jude dans le tout premier live, qui est assez étonnant. assez étonnante. Mais il y a aussi cette musique de... Il adore le film Macadam Cowboy. Mmh. Et il y a une Everybody's Talking, qui est une chanson de Macadam Cowboy qu'il adore. Il en fait une version absolument splendide. Il va partir aussi soudainement dans un petit peu de Bob Dylan et hop, il enchaîne sur Osez Joséphine. Osez Joséphine aussi, elle a une carrière incroyable à travers ses lives. Elle est absolument jamais la même. Ça ressemble un petit peu en fait au poème à une passante, quoi. Jamais tout à fait la même et jamais tout à fait
c'est
une autre.
C'est beau, Mathilde, j'ai envie de pleurer et de donner la parole à Joseph Gosse.
je vais essayer de ne pas vous faire verser trop de larmes. Plusieurs choses. D'abord, comme pour le disque précédent, je trouve que le coffret est vraiment immonde. C'est-à-dire, je trouve la pochette, c'est ni fait ni à faire. C'est-à-dire, en 2018, sortir un coffret avec un niveau si minime de renseignements, d'informations, on ne sait pas où c'est enregistré, il y a rien. Il y a absolument rien, je trouve.
C'est le paradoxe d'ailleurs, c'est que sur Wikipédia on trouve les lieux d'enregistrement et ils sont pas dans le disque.
C'est-à-dire quand vous voyez le niveau aujourd'hui de réalisation des pochettes de vinyle, etc., et vous dites qu'une maison de disque comme ça est incapable de sortir un coffret digne de ce nom, ça me...
Alors que le travail de remasterisation, il est
remarquable.
Il est là. Alors que
par ailleurs, quand vous écoutez. Le son, la musique, etc., c'est assez frappant, justement, la remasterisation. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est la façon dont la voix est mise en avant. Je me demande même si c'était le cas
dans les concerts, moi. Tous les souvenirs de concerts de Bachung, la voix était vraiment toujours très devant.
Parce que là, c'est vraiment très, très en avant. Et du coup, là, je me suis posé la question. Ensuite, ça mis à part pour la question formelle. D'un point de vue esthétique, je trouve que d'un bout à l'autre, même si effectivement les premiers concerts sont un peu datés d'un point de vue
des arrangements,
etc.
De la façon de jouer presque.
Ce qui est fou, c'est que ce qui est assez frappant, c'est que quand vous écoutez la totalité et vous promenez dans la totalité, vous vous rendez compte que c'est quand même de 85 jusqu'à la fin, c'est le meilleur groupe de rock en France en fait, et que finalement il n'y a quasiment pas un seul qui arrive à la cheville, c'est-à-dire que ce soit Noir Désir ou Téléphone, si vous voulez revenir à 85, enfin, le groupe est, enfin, lui en tout cas, et tout ce qui se passe avec lui, c'est dingue, c'est-à-dire qu'il emmène un groupe de rock à chaque fois qui va très très loin. Mm-hmm. Et effectivement, dans les premiers, même si c'est daté, on est quand même en 85 dans quelque chose d'assez sec, assez virulent, et on est quand même pas très loin à la fois de Londres, de New York, etc. Il y a quelque chose que je trouve assez fort. Ensuite, effectivement, je trouve que la fin est beaucoup plus belle que le début. Et le tout dernier disque, vraiment le dernier, c'est-à-dire le dixième,
c'est-à-dire le deuxième de Dimanche
à l'Élysée, je trouve que c'est effectivement une splendeur parce que à la fois du point de vue des arrangements, des chansons, de l'enchaînement, de ce qui est raconté, il se passe quelque chose d'assez magique, de très calme aussi. Je sais pas si on sent sa fin à lui, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça qui
c'est 4-5 mois avant. Voilà, c'est décembre 2008.
C'est très très fort et on sent.
Je vous souhaite force et tendresse.
Et quand justement il fait la chanson de Harry Nilsson qui est le thème de Midnight Cowboy, Everybody's Talking. On sent qu'il fait ça parce qu'il aime vraiment cette chanson. Et d'ailleurs, même si la chanson est joliment faite, comme le disait Mathilde, il la chante quand même avec un anglais cassé.
Un anglais alsacien.
Il enchaîne effectivement avec Bob Dylan. Il fait quelques secondes de Blowing in the Wind et on se demande pourquoi il fait ça d'un coup, qui est cette chanson finalement d'adolescent. Mais tout coule. Et ce dernier disque, c'est juste rien que ça, ça vaut la peine d'avoir ce coffret. Rien que pour ce dernier disque, je trouve juste splendide et très, très extrêmement touchant.
Christophe Comte.
Alors moi, je déteste les albums live. Donc
c'est
déjà,
vrai.
Ouais, à la base.
Mais moi aussi, par ailleurs.
Je déteste
moi, j'adore ça.
En dehors du jazz, on verra ça après. Mais pour la musique, en général, je déteste ça. Drôle, ça. Et Bachung.
Vous passez votre temps dans les concerts, mais vous aimez pas les disques
voilà,
live.
Absolument. Okay, mais je suis assez d'accord.
Tout est normal.
Mais je dois reconnaître une chose, c'est que moi, j'ai vu Bachung pas mal de fois à partir de 89. Donc ce concert de la tournée Novice qui est sorti quelques années après, mais qui date de 89, et j'ai un souvenir très précis d'avoir été voir Bachung sans être super fan, mais en imaginant voir Bachung comme un type qui allait jouer des tubes. Mmh. Et il arrivait, il était tout en cuir, comme on le voit sur la pochette, des lunettes noires. À l'époque, sur l'album Novice, il y avait des gens comme Colin Newman. C'était vraiment le Bachung européen, parce qu'il y a un Bachung américain, Memphis et tout ça, mais il y a un Bachung européen très New Wave. Et j'étais très impressionné par ce concert à la Cigale, qui était vraiment droit comme ça. Et je me disais, mais il va pas jouer les tubes. Et il finissait son set. Et cet album Novice qu'on connaissait live s'arrête là. Mmh. Et là, on découvre, en fait, qui était la deuxième partie, c'est qu'il arrivait avec une chemise blanche. Mmh. Et là, il jouait tous ses tubes. Mmh. Et il était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus plaisanté. Mais la première partie, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi tendu. Il y avait quelque chose d'Alan Vega chez lui qui était vraiment très fort. Et en 89, moi, Bachung, j'avais une image un peu floue de lui et j'avais été très, très impressionné. Après, l'autre partie qui m'impressionne beaucoup, c'est ce qu'on a écouté là, c'est la tournée des grands espaces, ce concert avec cette scène bizarre,
c'est Dominique González Foster
qui était fasciné. Moi, j'avais vu ça au Bataclan, c'était hallucinant quand même. Il y avait quelque chose qui se passait.
Un DVD très beau d'ailleurs.
Voilà, avec ce personnage, ce cow-boy au milieu, ces musiciens sur le côté, cette scène, je sais pas comment on appelle ça, inclinée. Enfin, il y avait quelque chose de très puissant et qu'on retrouve vraiment pour le coup. Moi, c'est le live qui m'a le plus impressionné parce qu'aussi, je dois dire que moi, pour moi, le disque absolu de Bachung, c'est L'Imprudence. Pour moi, c'est pas Fantaisie Militaire. Je trouve que L'Imprudence, c'est un disque magistral où il est en pleine maîtrise de quelque chose de, voilà, à la fois de très minimaliste, où il parle beaucoup plus qu'il ne chante, mais avec des paroles, mais tellement ce qu'on vient d'entendre. Enfin, toutes les paroles de L'Imprudence sont vraiment magnifiques. Mmh. Et je trouve que c'est très bien rendu dans cette tournée, dans ce live. Alors que je déteste celui d'avant, la confession, je ne sais plus comment ça s'appelle.
La confession, confession publique.
Oh là là, mais ça, alors, c'est du requin de studio. Il y a des solos de guitare, des intros.
Il
ouais,
y a des blues mal ficelés.
Voilà, il y a ce côté bluesy. Voilà, et ce côté Bachung, cette schizophrénie d'un type qui était vraiment partagé entre ses racines américaines et ses racines, on va dire, Europe centrale, enfin ce côté vraiment belge, plus belge qu'anglais finalement. Tuxedo Moon, même s'ils étaient américains, mais enfin tout le côté vraiment crépusculaire, pour rappeler les disques du crépuscule. Je trouve qu'il y a quelque chose chez Bachung qui a vraiment été capté de ce son des années 80, de hollandais, belge, etc., qu'on retrouve dans sa musique de manière magistrale. En revanche, moi, le côté voilà, plus country, plus folk, m'intéresse moins, parce que je trouve que ça lui va à la fois très bien, parce que il avait ce côté cow-boy, mais je trouve que ça donne une musique qui est à l'arrivée, je vais dire un truc un peu énorme, et qui est pas si loin d'Eddie Mitchell pour moi. Donc, voilà. Donc je préfère ce Bachung tendu.
Non, mais j'entends ce que vous dites. C'est vrai que l'exception, ça pourrait être Rosé Joséphine, qui est le morceau le plus country, évidemment, le plus beau, parce qu'il décolle véritablement.
Oui, mais voilà, parce qu'il y a un risque exceptionnel.
C'est le meilleur de cette tendance-là. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de le voir quelques fois, Alain Bachung. Alors moi, j'ai commencé en 80. Les concerts Bachung. J'avais 15 ans, lui, un peu plus. Vous n'étiez pas né, Christophe Comte. Vous ne pouvez pas être là. C'était épouvantable. Je pense qu'il avait eu 2 heures de retard et qu'il est arrivé extrêmement titubant. Puis il n'y avait qu'un album à l'époque. Donc c'était très pénible. Mais le plus beau souvenir, alors je ne sais plus quelle était l'année, 2006 ou 2007, c'était seul à la Cité de la Musique. Il y avait guitare, voix. Et c'est vrai qu'il y avait cette. J'ai eu la chance de le voir 2 fois dans cette configuration, une autre fois au Théâtre du Rond-Point. Cette voix a pris une ampleur au fil des années, et c'est ça qu'on entend aussi, qui est très beau dans cette série d'enregistrements en concert, c'est que l'arrivée, il se posait et on se demandait d'où ça pouvait venir, une voix pareille, parce que ça remplissait la salle, enfin, et d'une émotion absolue. Et même quand c'est, parce que dimanche à l'Élysée, c'est pas un dimanche à Bamako, hein, c'est dimanche au pluriel à l'Élysée.
Ça et finit c'est l'Élysée Montmartre, hein, c'est pas celui.
Ça finit par Nights in White Sightseeing. On peut dire qu'il est quand même, il la chante complètement à côté, et en même temps, c'est du Bachung et c'est dedans. Donc c'est c'est vraiment très paradoxal. Ceux qui veulent retrouver le tube Nights in White Sightseeing, ils vont être horrifiés. Et pour moi, il y a une émotion et là encore une forme de sincérité. C'est un interprète exceptionnel. Enfin, c'était quelque chose de
c'est une silhouette aussi exceptionnelle.
Oui, oui, absolument. Ça se posait là, Joseph Gosse.
Mais par exemple, moi je suis totalement fou de La Nuit Je Mens. C'est un morceau auquel je reviens. Voilà, c'est quasiment ultime. Et j'adore ce morceau. J'adore ce morceau. Et j'adore les versions live parce qu'elles sont à la fois très proches de ce qu'est le morceau. C'est-à-dire, il interprète avec vraiment les mêmes choses, les mêmes. On est quasiment au millimètre près, et en même temps, il se passe quelque chose d'autre. Donc c'est ça qui est comme ça, qui est un peu, que je trouve un peu tendu, et toujours sur le fil. J'adore ça.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a une.
Est-ce que vous n'êtes pas bachungienne?
Ah, je suis bachungienne au fond sur le tard. C'est-à-dire que j'ai découvert aussi avec Fantaisie militaire, donc j'arrive à ce moment-là. Il ouais, y a un livre très beau qui vient de sortir, qui raconte d'ailleurs toute la conception de cet album Fantaisie militaire, qui est en fait un album de cabossé, quoi. Bachung va très mal, il est entouré, il choisit les Valentins pour l'aider, qui sur eux-mêmes traversent une crise. Jean Fauque, ça va pas bien après l'essence du premier enfant avec sa femme. Enfin bref, il se passe donc tout un tas de problèmes existentiels, et les gens se réunissent dans ce studio, les cordes sont composées à l'autre bout par fax au plein mois d'août à Paris.
Par
Joseph Racaille, et c'est un miracle absolu, sans parler de la pochette, et sans parler aussi de ces indications qu'a donné Bachung et qu'on découvre dans ce livre. Et finalement, en écoutant le disque, ça m'a paru très clair. Il ne parlait que de peinture, essentiellement d'art plastique, pour évoquer ce qu'il souhaitait comme couleur musicale. Il fallait se débrouiller avec ça, quand derrière on devait faire les arrangements, les cordes. Et au fond, en effet, la tournée des grands espaces, mise en scène par Dominique González Foster, c'est la puissance, moi je trouve, pas simplement d'interprète, mais aussi presque cinématique de Bachung. Et on regarde parfois des lives en DVD, bah celui-ci, vous pouvez l'écouter, et il a regarder. Cette puissance d'image, très évocatrice.
Et puis il y a aussi il y a aussi une prise de risque à chaque fois, c'est-à-dire sur les derniers, par exemple, commencer avec un morceau comme le morceau comme un Lego, ou alors tel sur la tournée des grands espaces, on est quelque part, on est au bord de quelque chose qui peut s'écrouler à tout instant, et c'est très très beau ça.
Bon, moi j'aurais bien écouté aussi Malax plusieurs fois, ça
ne
lasse pas, et en concert ça prend aussi une dimension absolument folle. Bref, procurez-vous ce coffret 10 CD chez Universal, Bachung Live 85.
Aucun Express aussi.
Non, mais bon, la liste est longue.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Et le troisième sujet au sommaire de cette dispute musicale, c'est un nouvel album de John Coltrane, pourtant mort en 1967. Cherchez l'erreur. Enregistré en 63 dans les studios Van Gelder par le musicien et son classique quartet. Intense journée d'enregistrement, le 6 mars, on a la date. Le soir, il fait écouter, nous dit-on, une bande de référence à son épouse, et puis cette bande reste dans les affaires. 54 ans plus tard, cette bande sort et on en grave un album qui contient deux inédits, un morceau dont il n'existait qu'une version bootleg, d'autres morceaux déjà connus mais joués ici d'une autre façon. 14 pistes au total pour la version de luxe, 7 pour la version standard, 7 autres versions des mêmes morceaux pour le CD2 de Both Direction at Once, The Lost Album. On écoute donc Untitled, original 113-83.
Thank you.
Et voilà, un morceau enregistré par John Coltrane qui restait inédit jusqu'à la sortie de ce disque. Joseph Gosselin.
Oui. C'est étrange de parler de John Coltrane après tout ce, enfin voilà, avec un disque inédit, parce qu'on pensait à connaître absolument tout. C'est d'autant plus étrange que c'est un disque que je trouve un peu bancal en fait, comme enfin qui paraît très beau, mais que je trouve quand même un peu bancal, comme on peut l'entendre en fait sur le morceau qui vient de passer. C'est-à-dire, je trouve qu'il joue, évidemment c'est lui, on le reconnaît tout de suite, mais il y a quelque chose qui est un tout petit peu, qu'on sent un tout petit peu retenu, et il faut remettre un peu le disque dans le contexte, je crois. Cette session se situe à un moment où Coltrane enregistre des albums qui sont un tout petit peu plus classiques. Il vient d'enregistrer un album de ballades, et le lendemain, le lendemain, il enregistre un album qui est le seul album qu'il fait avec un chanteur, avec Johnny Hartman, qui est un très très bel album qui s'appelle Lush Life, qui est un de mes disques préférés, et avec la version de ce standard qui s'appelle Lush Life, qui est juste splendide. Et Coltrane, avec son quartet, joue à ce moment-là d'une manière que je trouve assez exceptionnelle. Là, la veille, ça joue plutôt bien, mais ça cherche, et on sent que ça cherche, mais qu'il n'est pas encore extrêmement convaincu. Pourquoi ? Plusieurs raisons. J'ai cherché un peu à gauche à droite. Alors il y a déjà le contexte historique, c'est-à-dire que Coltrane sort d'une période où il a joué avec Dolphy, et il a eu de très très mauvaises critiques. C'est-à-dire il s'est pris pas mal de choses dans la gueule de la part de la critique américaine, notamment d'un magazine qui à l'époque est très influent, qui s'appelle Downbeat, et il est un peu en retrait. C'est-à-dire qu'il sait qu'il cherche quelque chose, mais il l'a pas encore trouvé. On est encore à 2-3 ans de Love Supreme, et aussi de ses recherches vers le free, même s'il est déjà un peu le tenant de cette nouvelle scène qui est en train de se régénérer. On est aussi à quelques mois de son changement de vie, c'est-à-dire que 3 mois plus tard, en juillet, il rencontre, en tout cas il concrétise une nouvelle vie avec sa deuxième compagne, qui est son épouse, qui est Alice Coltrane, et qui va le mener elle aussi vers quelque chose, vers une recherche beaucoup plus spirituelle, cosmique, etc. Mais là, on sent un entre-deux. Pour rappeler le contexte aussi encore rapidement, Coltrane à ce moment-là est signé chez Impulse, et Bob Thiel, le producteur, l'enregistre. Il enregistre tout le temps. D'ailleurs, je crois que c'est dans les notes de pochette. Il enregistre absolument tout le temps, la nuit, etc., pour voir ce qui se passe, en fait. Et le quartet est en train de se former, et il se forme comme ça, et il prend ses airs comme ça. Ensuite, il y a un tout petit détail que j'ai retrouvé, mais je vous le dis rapidement. Coltrane le dit au journaliste Frankowski, qui l'a interviewé juste quelques mois avant sa mort. Et Kowski lui demande pourquoi à ce moment-là tu fais des choses classiques. Et lui dit, en fait, j'avais un problème. Et ce problème, c'est, j'avais un problème avec mon saxophone, avec mon embouchure, que j'avais trafiqué et qui ne marchait plus, et je n'arrivais plus à aller aussi loin que je voulais. Donc je me suis cherché, je me suis un peu arrêté à ce moment-là. Et au bout d'un moment, au bout d'une année, j'ai retrouvé quelque chose, en me disant, bon, il faut quand même y aller. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ce disque, lui, ne l'a jamais peut-être complètement porté, et que ses producteurs non plus ne l'ont pas forcément porté.
Christophe Comte, votre écoute de cet inédit de Coltrane.
Oui, alors effectivement, on sent que c'est un album qui n'a pas été écarté pour de mauvaises raisons, mais simplement parce que à l'époque, le quartet de Coltrane, c'est vraiment un atelier. Ils enregistrent tout le temps.
On dit album, c'est une session.
Voilà, session d'une journée, de quelques heures, parce que le soir, ils jouent au Birdland à Manhattan, alors que là, ils sont dans New Jersey, ils sont pressés par le temps, et c'est une bande où, je ne sais pas, un acétate que lui donne Rudy Van Gelder pour écouter, et il le laisse chez lui, et puis voilà, et puis l'histoire fait qu'il reste au fond d'un tiroir, mais il a tellement enregistré de musique finalement que c'est pas si grave que ça. Ce qui est étonnant, c'est de le voir réapparaître aujourd'hui et d'avoir des morceaux quand même qui sont assez qui structurés tiennent, hein. Qui par ailleurs ont eu une vie en live, notamment les fameux Impressions qu'il a joué sous toutes les formes, qui là sont dans des versions studio. One Up, One Down, je crois qu'il y a un morceau qu'il a joué en live qui pouvait faire 27 minutes, qu'il a dans une version plus ramassée. Et puis Nature Boy aussi, qu'il a joué par ailleurs, mais dans une version complètement différente. Et il y a, bon, dans le titre, Both Directions at Once, c'est vraiment ça. Il est entre deux, il est dans un tournant, il sait que ce quartet est vraiment celui avec lequel il va écrire l'histoire. À la même époque, j'ai vu ça par hasard, mais le même mois, donc le mois de mars 63, c'est l'époque où se forme le second quintet de Miles Davis, qui va lui aussi écrire. Il y a un truc qui se passe, il y a une conjonction des planètes qui fait que tous ces types arrivent, ils vont vers quelque chose qui est assez radical, on le sait, on le saura plus tard. Et là, ils sont encore à la lisière de ça. Mmh. On entend quelques tentatives un peu free, mais ça reste quand même très, très contenu. Et il y a quelque chose de très traditionnel, le truc de Franz Lehár, là, qui date de 1905, le Nature Boy aussi, qui est
la
un classique.
Ouais.
La Veuve Joyeuse, voilà. Bon, ça reste des choses. On a l'impression qu'ils se font un peu la main sur certains trucs, qu'ils y vont un peu plus sur d'autres. On n'est pas, c'est un volcan en éruption qui est encore en train de, voilà, il y a quelques petites, ébullitions et qui vont pas tarder à jaillir, parce que Love Supreme, je crois même que c'est juste un an plus tard.
Oui, en 64, ouais. Love Supreme.
On a... Et vous avez votre minute qui commence, Mathilde Serrel, avant la fin de cette émission.
Eh bien, je pense que cette session est extrêmement intéressante, car justement, c'est l'occasion d'entrer dans le mystère de la création de John Coltrane, puisque justement, ce succès dans les différentes pistes, les différents, voilà, les prises 1, 2, 3, 4, avec les petites voix de studio, d'ailleurs, qui accompagnent pour vraiment vous donner cette atmosphère de recherche, parce qu'on est dans un laboratoire de John Coltrane. Et c'est voilà un disque document, j'allais le dire, Arnaud Laporte. Both Directions at Once, c'est quelque chose qu'il dit à Wayne Shorter. Il dit qu'il faut aller d'abord au milieu de la phrase musicale, puis au début, puis à la fin, et dans les deux sens.
Les deux sens en même
ensuite.
Temps.
Donc c'est cette espèce de tension et d'aller au-delà, d'aller découvrir un territoire inconnu et de pousser derrière ce quartet à eux-mêmes se dépasser. Et on sent que parfois il les devance, que c'est difficile pour le batteur comme pour le pianiste de suivre, et puis il les emmène finalement au-delà de ce qu'ils auraient produit. Et c'est ça qu'on entend, c'est comment il a poussé ses musiciens à se dépasser.
C'est beau, vous êtes dépassé dans la concision pour Both Directions at Once, le Lost Album de John Coltrane, sorti chez Impulse. Et on conclut avec le jeu de la dispute, Camille André qui nous a rejoint. On va passer tout de suite au jeu de ce soir, parce qu'on n'a plus le temps de faire celui d'hier. Enfin bon, bref, on se comprend. On fait gagner des invitations pour l'exposition Couple Moderne. C'est jusqu'au 20 août au Centre Pompidou-Metz. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, quelle est la femme représentée dans la toile Femme qui pleure, peinte par Picasso en 1937?
Votre réponse, c'est que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et Mathilde Serrel va avoir le dernier mot.
Je lance un jeu. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un poème, ça n'était pas à une passante, c'en était un autre. Signé Verlaine, trouvez-le sur Twitter.
Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain, 19h, une dispute art plastique. Nous serons en compagnie de Frédéric Bonnet, Florian Guetté et Stéphane Coréard pour parler ensemble de Laure Prouveau, Ring, Sing and Drink for Trespassing, c'est au Palais de Tokyo à Paris. Les impressionnistes à Londres, artistes en exil à 1870-1904, c'est au Petit Palais. Et enfin, Guernica, exposition en cours au musée Picasso.